Ce programme vous est proposé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats.
Radio de la paix.
Bonjour à tous, bienvenue à Radio de la paix. Vous êtes à l'émission Démocratie en progrès, une émission de débat sur des thèmes d'actualité impactant le quotidien de nos populations. Pour ce sixième numéro, nous allons débattre du thème « Droits des personnes handicapées en Côte d'Ivoire, où en sommes-nous ?» Pour échanger sur ce thème, nos panélistes sont Madame Conan Kouadio-Agathe Marie-Laure, sous-directrice des droits des personnes handicapées à la direction de la promotion des personnes handicapées au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Monsieur Emmanuel Tani, conseiller technique du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Alfred Kouassi, conseiller au Conseil national des droits de l'homme et membre du comité des experts des Nations Unies, M. Kone Yakuba, président de la coordination des associations des personnes handicapées, et Marie-Paul Niali de Almeida, présidente de la fondation Dis-moi qui tu es, membre de l'association l'Union nationale des parents des personnes handicapées. L'émission Démocratie en progrès est présentée par Ben Diakité, réalisation Antoine Kouassi.
Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.
Droits des personnes handicapées en Côte d'Ivoire, où en sommes-nous ? En Côte d'Ivoire, les droits des personnes handicapées ont connu des avancées grâce à des lois et des politiques visant à améliorer leur inclusion et leur accessibilité. Cependant, beaucoup reste à faire pour garantir l'égalité des droits et l'accès aux services essentiel. C'est donc pour faire l'état des lieux sur les droits des personnes handicapées dans notre pays et de dégager des perspectives visant à renforcer ces droits que ce panel est organisé avec ses différents acteurs impliqués dans la politique de valorisation de la personne handicapée. Mesdames et messieurs, comment on peut définir la personne handicapée ? Qui est personne handicapée et qui ne l'est pas ? Monsieur Alfred Kouassi, on va aller avec vous puisque vous avez beaucoup travaillé sur cette question en tant qu'expert des Nations Unies. Quand on parle de personnes handicapées, de qui on parle exactement ?
Merci bien, Monsieur Ben. Une personne handicapée, c'est une personne qui a des déficiences, qui peuvent être physiques, qui peuvent être intellectuelles, qui peuvent être sensorielles, mais qui sont durables et dont l'interaction avec les diverses barrières de la société peut faire obstacle à sa participation à la vie de la société sur la base de l'égalité avec les autres. C'est-à-dire une personne handicapée, c'est une personne qui a des déficiences, mais dont la société ne permet pas de pouvoir participer à la vie de la société comme les autres. Donc le handicap est provoqué ici par les barrières de la société. Les déficiences existent, mais le handicap est dû aux barrières de la société.
Alors, qu'est-ce qu'on doit entendre par déficience ?
On va dire sur les incapacités. Ça peut être dû à peut-être au séquelles d'une maladie, au séquelles d'un accident, à une situation de crise, peut-être la guerre, quelqu'un a reçu une balle, finalement on l'a opéré, mais bon, peut-être on a dû l'amputer, enlever un pied. Ça peut être au niveau des yeux, peut-être un œil qui ne voit pas ou les deux yeux qui ne voient pas. Au niveau des oreilles, un côté qui n'entend pas ou qui entend faiblement ou qui n'entend rien du tout. Ou au niveau même de quelqu'un peut-être comme moi qui est paralysé, qui ne peut pas se déplacer. En fait, c'est ça la déficience. On peut être dans une déficience et pouvoir vivre comme les autres. En ce moment, on ne parle pas véritablement du handicap. Le handicap vient du fait que la société n'est pas adaptée à pouvoir me permettre de vivre comme les autres.
Madame Conan Kouadio-Agathe du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, est-ce que c'est comme ça aussi, chez vous, au niveau du ministère, que vous définissez la personne handicapée, ou bien c'est différent?
Merci, M. Ben Diakité, pour l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir parler des droits des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Je partage la même définition que M. Alfred Kouassi, parce que cette définition est celle donnée par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention même a été ratifiée par l'État de Côte d'Ivoire depuis le 10 janvier 2014. Donc, au niveau du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, c'est également la même définition des personnes handicapées. Et il a bien relaté, M. Alfred, parce qu'on parle ici de handicap. On va dire que le handicap résulte ici de l'incapacité, donc la déficience, avec les barrières au niveau de la société qui ne permettent pas à la personne handicapée de pouvoir participer à la vie de la société sur la base de l'égalité avec les autres.
Monsieur Kone Yakuba, président de la coordination des associations des personnes handicapées. Très souvent, on vous attend lorsqu'on publie les différents chiffres concernant donc la population des personnes handicapées, que les associations généralement sont pas d'accord sur les chiffres qui sont publiés en ce qui concerne la population des personnes handicapées. Selon vos estimations, vous estimez à combien le nombre de personnes atteintes d'handicap en Côte d'Ivoire?
D'accord, merci beaucoup Ben. Je voulais saluer aussi l'opportunité que vous nous donnez de faire de la question du handicap une question d'actualité en cette période de décembre où on parle des droits de l'homme et des droits des personnes handicapées. Merci beaucoup. En fait, comme on le dit, pour nous, il y a deux chiffres. Hein. Il y a les chiffres du recensement et il y a les vrais chiffres. Pour nous, comme nous sommes dans un État bien organisé, les chiffres de l'INS, ce sont des indicateurs pour nous. Mais la réalité, c'est que nous partons sur la base des estimations de l'OMS et de la Banque mondiale, qui estiment que dans nos États africains, il y a 15% de la population, aujourd'hui même dans certains pays, on parle de 16%, surtout dû au conflit et autres, de la population. Donc si on va sur cette base, et vous avez encore dit, on nous a dit qu'en 2021, la population, c'est 29 389 150 personnes. Donc apparemment, vous êtes déjà à plus de 4 millions 40 000 personnes en situation de handicap. Mais le gap est dû à quoi? Le gap est dû au fait que, malgré les plaidoyers que nous avons faits, la méthode du recensement n'a pas pris en compte la distinction du handicap pendant les questionnements. C'est bien sûr, il y a une petite victoire qu'on a obtenue, c'est que sur la fiche, il y avait la question du handicap qui apparaissait. Mais est-ce que les agents recenseurs avaient la capacité de pouvoir poser la question pour qu'on puisse savoir si dans la famille ou bien si la personne qui a enquêté est en situation de handicap? Parce qu'on a proposé que les agents recenseurs soient formés sur le questionnaire du groupe des experts de Washington. C'est un questionnaire qui permet d'évoquer la question du handicap sans parler de handicap. Par exemple, quand tu viens chez quelqu'un et tu demandes « Vous n'avez pas d'enfant en situation de handicap ?» Vous voyez que la réponse ne sera pas bonne. Ou bien, par exemple, moi je suis assis, tout le monde me connaît, je suis assis, mais s'il n'est pas ma canne, tu ne peux pas savoir que je suis en situation de handicap. Et il y a également plus de 80% des personnes handicapées qui ont un handicap invisible. Donc, ça suppose que ce qu'on voit là, si c'est un recensement de constat, donc c'est 20% des personnes handicapées qui sont identifiées. Donc, quand vous faites le rapport, vous vous retrouvez dans les chiffres des Nations Unies. Donc, voici un peu les difficultés qu'on a. Donc, pour nous, si l'État veut mettre en place un programme, une planification rigoureuse, il y a deux choses. Ou bien, on lance un recensement spécifique pour les personnes handicapées, ou on travaille sur la base de l'estimation de l'OMS. En 2020, il y a 468 000 personnes. 468 000, ça veut dire que de 2014 à 2021, il y a à peine un gap de 20 000. Or, en temps, on a eu les conflits et autres. Il y a eu le boycott actif, il y a des maladies qui sont arrivées. Aujourd'hui, les maladies invalidantes prennent de l'ampleur. Donc, chaque jour, vous avez des gens qui deviennent une personne handicapée du fait de l'hypertension artérielle, des diabètes et autres.
Merci beaucoup, monsieur Kone Yakuba, président de la coordination des associations des personnes handicapées. Je vais permettre à monsieur Alfred Kouassi de dire un mot également sur la question du recensement de l'identification des personnes handicapées en Côte d'Ivoire.
Effectivement, monsieur, merci monsieur Ben. Vous savez, moi-même, j'ai été recensé en 2021 et j'ai reçu les agents recenseurs qui sont venus me recenser, qui m'ont posé des questions. Et à la fin, monsieur Kone l'a dit, dans le questionnaire, il est mentionné clairement la question du handicap. Et la personne ne m'a même pas posé des questions sur ça. Et je lui demande, mais vous avez fini? Oui. Vous voulez partir? Oui. Mais il n'y a pas quelque chose qui parle de handicap? Si. Mais pourquoi vous ne me demandez pas? Non, on a constaté que vous êtes en situation de handicap. Mais alors, donc vous allez constater que toute ma maison est en situation de handicap ou bien quoi? Et ceux qui ne sont pas là, est-ce qu'ils sont en situation de handicap? Et ma femme qui est à côté de moi, est-ce que vous savez si elle est en situation ou pas? Vous ne pouvez pas me regarder comme ça, ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas des experts pour pouvoir qualifier le handicap. Donc, ils sont venus nous recenser et ils veulent voir des personnes handicapées, comme il a dit, par constat. Et je demande, mais comment est-ce que vous faites pour chez les autres? Non, on est rentré dans une maison, on a demandé, on a essayé de respecter. La première fois qu'on est arrivé, on a pris le formulaire, on a commencé à poser toutes les questions. Et puis, on leur demande, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui est en situation de handicap? Le monsieur dit, mais ça ne va pas chez vous. Quand vous me regardez, je ressemble à quelqu'un qui est handicapé. Chez moi, ici, il y a personne handicapée. Ce genre de questions, si vous avez besoin de poser ici. Donc, ils se sont recroquevillés d'après eux et ils posent plus ces questions-là. J'ai dit, mais attends, on vous a donné un formulaire, qu'on vous insulte, qu'on vous insulte pas, pour poser les questions. C'est-à-dire, en attendant qu'on améliore et qu'on prenne le formulaire de Washington Group, mais en attendant, ce qu'on vous demande là, il faut respecter. Donc, vous voyez, déjà à partir de chez moi, j'ai compris que les chiffres ne peuvent pas être vrais. Et comme il a dit, en matière de handicap, ce qui est connu, le handicap visible, c'est 20% et le handicap invisible, c'est 80%. Donc, quand vous venez et que vous voulez constater, vous allez constater 20%. Et ce que vous n'allez pas constater, c'est 80%. Et si vous voyez autour de 460 000 ou 500 000, et que vous ajoutez les 80%, on se retrouve dans les 4 millions. Donc, on retrouve les vrais chiffres. C'est comme ça. Je crois que ça ne peut pas continuer comme ça. Puisque notre pays a ratifié la Convention, il a exigé à tous les pays qui ont ratifié la Convention de faire les recensements en respectant le formulaire simple de Washington Group.
D'accord. Merci beaucoup, M. Alfred Kouassi. M. Emmanuel Tani, conseiller technique du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. On a entendu les premières réactions de nos invités sur la question la définition de le handicap et également sur la question du recensement de la population des personnes handicapées sur le territoire national. La question que je vous pose, c'est de savoir pourquoi il faut s'apesantir sur la situation des personnes handicapées. Je suppose que dans la société, il y a les femmes, il y a les hommes, il y a les valides, il y a les enfants. Pourquoi l'État déploie tout ça pour les personnes handicapées?
Je vous remercie, M. Diakité. Tout à l'heure, nous avons entendu M. Koné nous dire que les chiffres qui ont été donnés n'étaient pas les véritables chiffres. En fait, de nos travaux, il ressort à travers un rapport mondial de l'OMS sur l'équité en santé qu'une personne sur six dans le monde présente une situation de handicap. Quand nous ramenons ces éléments à notre niveau, au niveau de notre pays, nous croisons un peu les informations données par M. Koné. Et cela nous interpelle parce que ayant une personne sur six dans notre pays touchée par la question du handicap, il y a lieu de se pencher sur cette situation. Et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a déployé un certain nombre de politiques dans ce sens. La première politique était la question de la réadaptation physique. Ensuite, un état des lieux a pu être fait avec un plan stratégique 2022-2025 pour la question. Nous sommes allés un peu plus loin avec la question aussi des technologies d'assistance. Parce que quand on parle de handicap, son corollaire immédiat, c'est les aides techniques. Et donc, nous nous sommes penchés aussi sur la question pour qu'on puisse savoir quelle est la situation dans notre pays, quels sont les véritables besoins, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire un état des lieux, un plan stratégique, et même il faut finaliser ce plan stratégique avec une budgétisation pour pouvoir en tenir compte. Et ce qui va nous amener à ressortir une liste des aides techniques prioritaires du pays, nous n'en disposions pas. Donc, c'est des activités qu'il faut mettre en route et nous sommes assez avancés sur la question. Il y a aussi l'équité en santé pour les personnes handicapées. Voyez-vous que notre système sanitaire offre à la base de manière égale les soins à toute la population. Mais il convient de dire que tout le monde n'a pas les besoins de la même manière. Et donc, en ce qui concerne les personnes handicapées, il y a lieu d'envisager l'équité au lieu de l'égalité.
Parce que, quoi, concrètement,
pour bien, égalité, c'est de donner de la même manière la même chose à tout le monde. L'équité, c'est de donner un peu plus à celui qui en a le plus besoin. Et donc, moi, je prends un cas très simple d'une dame atteinte de nanisme qui enceinte par l'accouchement. Si on prend une salle d'accouchement ordinaire, sans aménagement par rapport à son besoin, elle ne peut pas accoucher dans les meilleures conditions. Donc, il y a lieu pour elle de mettre une disposition particulière pour qu'elle puisse accoucher facilement. Et donc, c'est des besoins qui se présentent dans notre système. Et ça nous a interpellés pour réfléchir sur la question. Et nous sommes en de bonne voie pour pouvoir sortir ce qu'il y a lieu de faire avec le plan stratégique que nous mettons en place.
Alors, Madame Niali, vous êtes présidente de la Fondation Dis-moi qui tu es, également membre de l'Association de l'Union nationale des parents de personnes handicapées. Quels sont, vous, au quotidien, les défis qui se dressent à vous, à vos enfants?
Merci de donner la voix aux parents parce qu'on a beaucoup de choses à dire en tant que parents. Vous savez, le handicap, surtout en Afrique, il est, je dirais, péjoratif de façon culturelle. Un enfant handicapé, c'est comme une malédiction. Donc, être parent d'enfants handicapés, c'est quelque chose de lourd à porter en Afrique. Et de génération en génération, on l'a tous porté, nos ancêtres, nos parents et tout. Et aujourd'hui, on est arrivé à une ère où on veut que les choses changent, on veut que les mentalités changent. On ne veut plus voir le handicapé comme celui à qui on doit faire la dîme, celui à qui on doit faire l'offrande, parce que c'est une personne à part entière. Nous vivons dans le monde, les handicapés vivent, ils y vivent, ce sont des citoyens à part entière, ils ont les mêmes droits que tout le monde. Ils vivent pas sur une autre planète où c'est eux seuls qui sont dans un besoin particulier, non. Ils ont certes des besoins parce qu'ils sont en mobilité réduite, mais ils ont ce besoin d'être avec tout le monde, de se sentir vraiment dans la mondialisation, comme on le dit maintenant. Parents d'enfants en situation de handicap, le quotidien. Le quotidien d'un parent en situation de handicap, c'est un quotidien exigeant et très difficile. Parce que nous avons les soins quotidiens à apporter à l'enfant, on a la corvée de l'hygiène, la préparation des repas, la gestion des traitements. C'est vraiment difficile. Il y a aussi la vie personnelle aussi à gérer, la vie professionnelle aussi du parent à gérer. Il y a le budget à gérer, il y a tellement de choses à gérer et le parent se sent très vite débordé. Il y a aussi l'annonce du handicap. Lorsqu'on vous annonce que votre enfant est en situation de handicap, vous n'êtes pas préparé. Hein. On vous dit ça comme ça, comme si derrière vous étiez préparé. Et à vous de planter le tableau. Vous avez peut-être un boulot à plein temps. Là, vous devez arrêter de travailler. Vous arrêtez de travailler, mais vous devez faire la rééducation de l'enfant. Il y a des choses qui sont mises en place, mais vous devez payer le paramédical. Vous devez payer les soins et le travail derrière. C'est vraiment, vraiment quelque chose de très, très difficile. Donc, en tant que parent, on essaie de se mettre ensemble. On essaie de faire des écoutes, écouter d'autres parents. Ceux qui sont plus forts essaient de soulever ceux qui sont en bas et d'aller de l'avant, mais c'est vraiment, vraiment difficile. Et il y a aussi l'accès aux ressources et aux services. On a besoin de financement, on a besoin de moyens, on a besoin, comme il l'expliquait tout à l'heure, d'avoir accès aux services, d'avoir accès à l'éducation. On a ce besoin-là. On m'en dit pour aller à l'école, parce que quand vous allez, le directeur vous regarde d'un autre œil. Non, on ne peut pas prendre l'enfant ici. Vous êtes obligé d'appeler quelqu'un dans un ministère pour lui demander non, comment on doit faire. C'est pas possible. On peut pas mendier. C'est une personne à part entière. Il faut que les choses soient mises en place. On veut bien s'entraider, mais il faut que les parents aussi aient des moments de joie, des moments de fierté, mais on peut pas être toujours en train de lutter. On a le droit d'être heureux et de pas rester là à stresser parce que notre enfant ne va pas à l'école. Pourquoi est-ce qu'il va pas à l'école? Parce qu'il est handicapé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le jeter? On peut pas le jeter, donc il faut que tout soit mis en place.
Merci beaucoup, Madame Marie-Paul Niali, pour toutes ces explications, ce qui nous permet de donner le micro à Madame Conan Kwadio Agathe du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Vous avez entendu le cri de cœur avec nous hein, de Madame Niali sur la situation, l'accès à l'éducation, notamment à l'école. Au niveau du ministère, quelle est la politique nationale pour pouvoir permettre à ces enfants handicapés d'avoir accès à l'éducation?
Vous savez que la question du handicap est une question transversale. Quand on parle de l'éducation, c'est bien le ministère de l'Éducation nationale qui a le lutte sur cette question. Mais nous travaillons en synergie d'action, puisqu'il s'agit du gouvernement, de l'État, dans toutes les structures de l'État, doit pouvoir travailler en synergie d'action. Et en 2022, nous avons eu la stratégie nationale de l'école inclusive. L'école inclusive, il y a eu un projet qui a démarré déjà depuis 2013, la rentrée scolaire 2013-2014. Il s'agissait de permettre aux enfants handicapés sensoriels. Ça a démarré avec les enfants sourds. Il s'agissait de permettre aux enfants, dès la classe de CE1, de pouvoir intégrer des écoles ordinaires. Et pour ce faire, nous avons eu l'appui technique et financier de l'Union européenne qui accompagnait l'État sur ce projet-là. Et des enseignants ont été formés, des instituteurs, voilà, ont été formés à la langue des signes. Il y a eu des écoles inclusives. Aujourd'hui, on est autour de plus de 27 écoles. Il y a eu plus de 100 enseignants qui ont été formés, 500 enfants qui ont été pris en compte. Mais le besoin, il est encore réel. Parce que ça, il s'agit des enfants en situation de handicap sensoriel. Et à côté de cela, nous avons deux écoles publiques qui sont l'école ivoirienne pour les sourds, l'Institut national pour la promotion des aveugles, qui sont toutes les deux à Abidjan, dans la commune de Yopougon. Et il s'est avéré que nous avons des enfants qui nous viennent. Les capacités d'accueil de ces deux structures sont limitées, qui nous proviennent donc. Nous avons réfléchi dans le cadre de l'école inclusive. Il y a ces écoles-là qui ont été mises en place pour pouvoir prendre en charge ces enfants. Et nous, au niveau du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, nous avons des unités de formation intégrées qui sont dans certaines directions régionales, qui travaillent aussi avec ces enfants handicapés. Et puis après, elles sont reversées au niveau des écoles inclusives. Mais je vais dire qu'on va parler en termes de projet. C'est un processus qui a démarré. Savons qu'il y a encore beaucoup à le faire. Et au niveau des enfants en situation de handicap intellectuel, la prise en charge, elle est énorme, elle est difficile, coûte beaucoup aux parents. Et à ce niveau, nous avons plus de 27 écoles pour la prise en compte d'enfants en situation de handicap intellectuel. À ce niveau, l'État permet que des personnels qualifiés soient mis à la disposition de ces structures. Elles reçoivent une subvention de l'État. C'est déjà des actions qui sont menées, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. Il faut réfléchir en termes d'une stratégie nationale. Ça a été fait avec l'éducation nationale. Nous avons pris part aux travaux. Aujourd'hui, la stratégie nous manque. C'est 2022-2025. Là, on est pratiquement arrivé à son thème. Je pense que le bilan sera fait. Mais je veux aussi dire, c'est vrai que nous avons l'État, mais nous avons aussi à côté les organisations de la société civile. On va parler des organisations de personnes handicapées, de parents d'enfants handicapés, qui doivent aussi pousser l'État. Il faut amener l'État. C'est vrai que c'est les prérogatives de l'État. Bon, c'est ensemble que nous pouvons parler de cette question de l'éducation des enfants handicapés. Donc, ça a aussi de booster, de faire le plaidoyer. Comme je l'ai dit, l'État a ses actions qu'elle doit mener sur le terrain. Mais il faut aussi que les associations, les organisations par derrière puissent le rappeler à l'État. C'est vrai qu'il y a des actions qui sont menées, mais l'État doit pouvoir faire encore davantage. Comme je vous ai dit, c'est un processus qui a démarré. Aujourd'hui, on parle de l'inclusion. Il faut permettre à tous les enfants, quel que soit le handicap, d'avoir accès à l'école. La loi l'a obligé. Maintenant, il faut créer les conditions. Donc, je pense que c'est une synergie d'actions que nous allons mener pour que ce droit à l'éducation, tous les enfants de Côte d'Ivoire, quelle que soit leur situation, puissent vraiment exprimer ce droit-là.
Alors, sur la question de l'éducation des enfants ou des personnes handicapées, Monsieur le Président Kone Yacouba.
En fait, je voulais d'abord réagir sur la situation générale des enfants. En fait, la difficulté en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas de démarche handicap. Aujourd'hui, un parent se retrouve avec un enfant en situation de handicap, il ne sait pas à qui s'adresser. C'est l'une des difficultés. Finalement, le parent est laissé à lui-même. Il y a un de mes frères qui a croisé un enfant à la GESCO. L'enfant, du fait de son handicap, il a 12 ans, mais il est au CE1. Il veut forcément aller à l'école. Mais la maman porte l'enfant au dos. La maman n'a plus la force. 12 ans déjà, c'est un costaud de porter l'enfant. Elle dit qu'elle est fatiguée. Et l'enfant pleure chaque matin. Il veut aller à l'école. Donc le frère était de passage. Et lui, il a vu ça. Il dit, bon, je vais appeler mon frère. Et c'est comme ça qu'on nous a appelés. Et on a trouvé un fauteuil roulant pour donner à l'enfant et un kit scolaire pour lui permettre de partir à l'école. En fait, c'est pour dire que quoi? Si le parent savait, par exemple, que la direction de la promotion des personnes handicapées qui existe et qu'ils doivent se tourner vers eux pour avoir des solutions, c'était encore intéressant. Aujourd'hui, quand vous êtes en situation, vous ne savez pas à qui vous adresser. Même au niveau sanitaire, par exemple, au niveau de la santé, on dit quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital de proximité, ainsi de suite. Mais dans la question du truc, il n'y a pas ça. Maintenant, au niveau de l'éducation, nous, au niveau des organisations, notre constat, c'est que l'éducation des enfants handicapés est laissée aux ONG. Contrairement aux autres enfants où l'État en fait une priorité. Madame la directrice a parlé de beaucoup de bonnes initiatives, mais dans la pratique, c'est des initiatives qui n'ont pas démarré. Aujourd'hui, quand vous faites le bilan de l'école inclusive, les enseignants sont en train de quitter le projet parce que, en réalité, il n'y a pas de motivation des enseignants qui ont une tâche supplémentaire en faisant la langue des signes. Nous, on a partagé une expérience. Aujourd'hui, le processus s'arrête au CM2. Il y a eu un cas à Bobo chez nous où toute une promotion, ils sont partis en 6e. Mais dans l'école la plus proche, le lycée, il n'y a pas l'école inclusive. On fait quoi? Il faut les affecter à Yopougon, à Nokwa. Mais on ne peut pas quitter à Bobo. Aujourd'hui, il y a le rapprochement de l'école au niveau des familles. Donc, ce que nous avons proposé avec l'expertise de l'interprète, c'est de voir les enfants qui ont fait la même classe avec ces enfants-là. On allait voir le proviseur pour qu'on les mette dans la même classe. De telle sorte que lorsque le professeur fait le cours, ces enfants qui savent déjà signer, mais qui ne sont pas en situation de handicap, signent pour les autres. Donc, vous voyez un peu. Ça veut dire que c'est un peu du racolage, mais c'est une bonne pratique, c'est pour ça qu'on la partage. Donc, il faut aller plus loin et il faut aller vite. Parce qu'aujourd'hui, on va dire non, il y a beaucoup de mendiants, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que l'État fait pour que ces enfants-là puissent être dans les conditions? Pour les enfants handicapés physiques, les parents sont obligés de les porter. Le conseiller l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, encore, un fauteuil roulant, c'est minimum 150 000, 180 000. Et l'éducation des enfants handicapés coûte 2 à 3 fois plus cher que l'éducation d'un enfant normal. Donc, il faut un accompagnement des parents. Il faut véritablement un accompagnement et des mesures spécifiques.
Alors, Alfred Kouassi, rapidement sur cette question de l'accès à l'éducation pour les personnes handicapées, qu'est-ce que vous voulez ajouter?
Au niveau du Conseil national des droits de l'homme, nous avons été saisis par l'Union des parents d'enfants handicapés pour dire que le droit à l'éducation de leurs enfants est violé. Ce sont des enfants de l'État du Côte d'Ivoire qui veulent bien aller à l'école. Les parents veulent les envoyer à l'école, mais les parents ne trouvent pas d'école où envoyer ces enfants. Par exemple, les écoles pour les enfants avec un handicap intellectuel, rien n'est prévu. C'est vrai que Mme Konot parlait tout à l'heure d'institutions, 27 instituts, mais ça c'est privé. Et souvent, il y a pour un seul enfant, il faut payer 100 000 francs par mois, par enfant. Combien de parents ont les moyens de payer 100 000 francs par mois par enfant? Donc, c'est extrêmement difficile. Les enfants autistes, on ne sait pas où les mettre. Il y a, au niveau du ministère de la Santé, l'INSP à Djamé, il y a un centre qui existe là-bas, mais il faut vraiment renforcer. J'ai rendu visite à ce centre, il y a beaucoup de choses qui manquent. Il y a les voisins qui sont venus détruire le centre. En tout cas, il faut renforcer. Ici, les parents ne savent pas ce qu'il faut faire. Et donc, il est important que l'État de Côte d'Ivoire prenne véritablement en main la question de l'éducation des enfants handicapés du pays.
Madame Okona, on va vous permettre de répondre à ces différentes préoccupations, le manque d'informations, le manque de l'existence des structures pour prendre, comme vous l'avez dit, des besoins spécifiques, notamment les enfants handicapés intellectuels où c'est parfois difficile. Qu'est-ce que vous répondez?
C'est vrai qu'au niveau de l'éducation des enfants en situation de handicap intellectuel, nous n'avons pas de structure publique. C'est vrai, tout à l'heure, M. Afré Kouassi a parlé du centre Témonlé qui assure la prise en charge des enfants autistes. Ce centre se trouve à l'Institut national de la santé publique qui relève du ministère de la Santé. Donc nous sommes bien conscients de l'inexistence de structures publiques pour prendre en charge ces enfants. Pour cela, le temps que l'État puisse réagir sur cette question, je parlais tout à l'heure du personnel, voilà qualifié, qui est mis à la disposition de ces structures, d'un appui sous forme de subvention accordée à ces structures. Mais je pense que c'est bien au-delà, parce qu'il faut penser, comme l'État a pris cette loi qui engage les parents, à permettre que tous ces enfants en situation de handicap aient accès à l'école, puisqu'on rend l'école obligatoire. On doit pouvoir créer les conditions. Mais je pense que, comme je l'ai dit, c'est une question qui sera prise en compte. Mais la question du handicap, elle est transversale. Bien que le ministère de l'Éducation, c'est pour cela que je parlais de tout à l'heure, de travailler en synergie d'action avec les organisations. Monsieur Koné parlait tout à l'heure que c'est au niveau de l'éducation des enfants en situation de handicap intellectuel, c'est bien l'initiative de structures privées. Là, dans ce domaine, nous reconnaissons. Mais je pense que nous travaillons à cela parce qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il y a eu bien un arrêté interministériel aux trois ministères. Agissent par rapport à l'école inclusive, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le ministère de la Femme, Famille et Enfants, ainsi que le ministère de l'Éducation nationale. Donc je pense que cette question, elle est d'actualité. Nous allons la traiter, mais dans un consensus avec toutes les structures étatiques, tous les ministères techniques, pour y agir sur la question.
Alors, Monsieur Emmanuel Tanu du ministère de la Santé, on a vu que votre structure au niveau de l'INSP a été donc citée par les témoignages comme une structure apportant une réponse à la question de l'éducation des populations. Cependant, c'est la multiplicité quand même de ces structures sur le territoire national qui pose parfois des problèmes. Alors, quelle est votre approche pour régler cette question de l'accès de ces enfants à l'éducation?
Bien, je dirais simplement que il y a une synergie d'action qui se doit. Et actuellement, dans tout ce que nous proposons comme solution, nous avons une complémentarité d'activités. Au sein du ministère de la Santé, nous avons mis des plateformes en place en ce qui concerne des questions liées à l'handicap. Et dans cette plateforme, ou pour ne pas dire dans ces plateformes, nous avons la partie institutionnelle, avec nos différents ministères tels que le ministère de la Santé, le ministère de la Protection sociale, le ministère de la Femme, Famille et Enfants, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Budget, ainsi de suite. Nous travaillons sur toutes ces questions parce que la question du handicap est assez large. Il faut dès le bas âge, dès le début, cerner la question, prendre en charge l'enfant, lui donner ce qui est nécessaire et permettre avec la société tout entière que nous puissions conjuguer nos efforts pour pouvoir parvenir à une belle solution. Voyez-vous, aujourd'hui, quand on parle d'éducation, de handicap en milieu scolaire, nous pouvons dire que la question de la santé oculaire, la question de la santé auditive, sont des questions qui, peut-être de par le passé, n'ont pas permis à certaines personnes de pouvoir s'épanouir. Parce que, rappelons-nous, dans les années bien lointaines, on pouvait imaginer que ces enfants-là ne voulaient pas étudier. Et pourtant, c'était juste une question de vue, une question. Aujourd'hui, nous avons un programme de santé oculaire, bientôt santé auditive aussi, qui travaille sur la question. et nous avons une synergie d'action avec le ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir offrir soit des lunettes ou bien alors des appareils auditifs. Les appareils auditifs dans la matière sont des appareils excessivement chers. Et je vous ai dit tantôt que nous avons travaillé sur la question des technologies d'assistance pour pouvoir permettre d'arrêter une liste prioritaire des aides techniques. Cette liste prioritaire sera intégrée, assimilée aussi à la liste des médicaments essentiels, permettre à la nouvelle pharmacie de la santé publique et à notre centrale d'achat de pouvoir s'en procurer et le rendre disponible pour tous ceux qui sont dans le besoin. Un travail se fait. Comme Mme Kona a eu à le dire, c'est pas à pas que nous allons parvenir à notre objectif. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir offrir à chaque enfant de notre pays ce qui est nécessaire pour son épanouissement.
Merci beaucoup à vous, M. Emmanuel Tani, conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Mes auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'émission Démocratie en progrès. Et le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est droits des personnes handicapées en Côte d'Ivoire, où en sommes-nous? Et pour débattre de ce thème, je suis donc en compagnie de M. Emmanuel Tani, conseiller du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Je suis en compagnie également de M. Alfred Kouassi, conseiller au Conseil national des droits de l'homme et membre du comité des experts des Nations Unies. Je suis également en compagnie de M. Kone Yakuba, président de la coordination des associations des personnes handicapées. Je suis en compagnie de Mme Kona Kwadu-Agade, Marie-Laure, sous-directrice des droits des personnes handicapées et de la promotion des personnes handicapées, bien entendu, au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Je suis également en compagnie de Mme Marie-Paul Nialid Almelda, présidente de la Fondation Dis-moi qui es-tu es.
Radio de la Paix. Se parler. S'écouter. Se comprendre.
Chers invités, nous allons en partie pour la deuxième partie de notre émission et nous allons parler cette fois-ci de l'emploi, la question de l'accès des personnes handicapées au travail. Monsieur Alfred Kouassi, quelle est aujourd'hui la situation des personnes handicapées en termes d'emploi?
La question de l'emploi, on va dire qu'il y a d'amélioration, puisqu'en matière des droits de l'homme, c'est l'existence de tout ce qui est instrument juridique qui est le premier élément qu'il faut. Donc, du point de vue juridique, on va dire que tout est en place. Enfin, quand j'ai dit tout, le nouveau Code du travail a pris en compte la question en son article 12 et des décrets d'application ont été donc pris, notamment pour le secteur privé. Et le dernier décret qui a été pris, c'est celui qui met en place le fonds d'insertion des personnes handicapées. Et j'ai même vu un arrêté qui accompagne ce décret pour préciser que les entreprises qui ne vont pas employer les personnes handicapées vont payer une pénalité et dans quelle proportion ces pénalités donc vont être payées. Et donc on voit que du point de vue normatif, tout est mis en place. Maintenant, c'est dans l'application. Ça, c'est dans le secteur privé. Dans l'application, est-ce que ça a déjà réellement commencé? Là, à ce niveau, je peux dire que ça n'a pas encore véritablement commencé, puisque c'est maintenant qu'on est en train de prendre tous ces décrets et autres. Mais avant cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'était que c'était très difficile, et c'est encore très difficile pour les personnes handicapées d'intégrer le monde du travail. C'est très difficile. Il y a le rejet. Heureusement, l'État, du point de vue peut-être de la fonction publique, Mme Kona va préciser les chiffres, mais ça, il faut saluer l'action du gouvernement. Le CNDH salue l'action du gouvernement. On a même produit une déclaration dans ce sens, puisque le gouvernement a relié la question du recrutement dérogatoire à la question du PSGOV, le programme social du gouvernement, donc de sorte que chaque année maintenant, l'État recrute, et on va dire 200 personnes, à la fonction publique. C'est une œuvre salitaire. Néanmoins, il y a des ministères qui font des difficultés pour recevoir des personnes handicapées. Et nous, au niveau du CNDH, on a reçu même une personne handicapée qui est venue nous saisir pour dire, une année et demie après avoir été recrutée à la fonction publique, avoir été affectée dans un service du ministère, on ne l'a pas encore reçue pour lui donner la prise de service. Mais attends, c'est pas possible. Une année et demie après. Alors, on a été saisi du dossier, on a traité le dossier, c'est moi-même qui ai fait le parcours, et c'est après cela que la personne a eu sa première prise de service. Et moi, je dis, pas question qu'on lui donne une première prise de service qui commence à partir de la date d'aujourd'hui. Il fallait qu'on commence une année et demie avant. Parce que depuis là, elle vient régulièrement, c'est vous qui ne la recevez pas. Mais c'est sur ça qu'on s'est entendu. Parce que ce n'est pas possible qu'on lui perde autant de temps. Donc, vous voyez, la réalité, c'est ça la réalité. Néanmoins, plus de 2000 personnes sont recrutées à la fonction publique, ce qui est une bonne chose. Même s'il n'y a pas une base juridique claire sur cette question, ça fait que ça reste à l'appréciation des autorités politiques. Aucun test n'oblige personne à recruter chaque année. Donc, vous voyez, de ce point de vue, ça, il y a un souci. Mais néanmoins, puisqu'il y a une thèse qui existe, la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, qui dit que la question de l'emploi et du travail des personnes handicapées est une obligation nationale. Donc, si l'État ne le fait pas, c'est parce qu'il n'y a pas de tests clairs. Donc, il faut des tests clairs à ce niveau. Maintenant, pour ce qui est du privé, ça vient d'arriver et on espère qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être recrutées. On espère aussi qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont pouvoir bénéficier parce que tout ce qu'on vient de dire, les difficultés d'accès à l'éducation, comment on peut rendre les personnes qualifiées? Parce que dans le test du Code du travail, il est fait obligation aux entreprises de recruter des personnes handicapées avec la qualification professionnelle requise. Ça veut dire que on doit avoir une qualification professionnelle. Et si je n'ai pas droit à l'éducation, comment je peux avoir une qualification professionnelle? Vous voyez, c'est toute une chaîne.
Merci beaucoup, Alfred Kouassi, pour toutes ces explications et précisions sur la question de l'accès donc des personnes handicapées à l'emploi. Monsieur Kone Yakouba, président de la coordination des associations pour personnes handicapées, sur la question de l'emploi, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Vous pouvez.
Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est vrai, le conseiller a fait un état des lieux, mais il a oublié les 65% des personnes handicapées qui n'ont pas de diplôme et qui doivent travailler. C'est ceux qui sont dans le secteur informel et qui sont dans l'auto-emploi. La difficulté aujourd'hui, c'est que il n'y a pas d'équité en faveur de ces personnes-là, surtout à l'accès au financement et à l'investissement. Ça fait partie des difficultés. C'est vrai, vous allez voir beaucoup de personnes handicapées qui sont dans le secteur informel, mais qui n'ont pas accès au financement. On a même fait des plaidoyers auprès de l'emploi jeune, mais généralement, M. Alfred l'a dit, on ne sait pas par quel miracle, on va valider ton projet, mais quand le financement va arriver, ton nom ne sera pas dedans. Moi, personnellement, j'ai fait l'expérience. Une année, on nous a demandé de postuler, et ce jour-là, j'étais passé à la télé pour dire qu'on avait présenté un projet d'élevage, aviculture, et le projet a été validé par les experts des banques. L'année-là, on avait fait un plaidoyer où il y avait une plateforme spécifique qui avait été créée par les personnes handicapées. On nous a dit qu'il y avait 100 millions dedans pour le projet des personnes handicapées. Lorsque on a postulé le projet, c'était en 2013-2014, jusqu'à aujourd'hui, le financement n'est pas venu. Chaque fois que tu passes, on te sort ton dossier, on essaie en bonne voie. Mais finalement, je lui ai dit, mais un projet qui a plus de 2 ans d'existence, les chiffres sont devenus caduques parce que la vie évolue. Donc, je souhaite qu'à ce niveau-là, il y ait des mesures spécifiques pour ces personnes-là au risque de les voir transformer en mendiants. L'autre élément au niveau de l'emploi, c'est la mobilité des travailleurs en situation de handicap, qui est un véritable calvaire à Abidjan. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde connaît le montant des transports dans le secteur privé et dans le secteur public. Aujourd'hui, au niveau du transport, lorsque les personnes handicapées doivent se déplacer, surtout en fauteuil roulant, vraiment c'est un calvaire. Quand les taxis vous voient, quand ils voient le fauteuil, c'est à ce moment qu'ils accélèrent. Vous ne pouvez pas prendre le bus aussi à une certaine heure parce que les bus sont bondés. Ceux même qui sont arrêtés pour ne pas monter, ce n'est pas un fauteuil roulant qui va monter. Donc, ce qui fait aujourd'hui que le transport, par exemple, vous avez 20 000 francs de transport si vous êtes fonctionnaire, vous utilisez vos 20 000 francs de transport en 2 jours. Et après, on va dire que les personnes handicapées, on leur donne du travail, ils ne veulent pas aller au travail. Finalement, ce qu'ils doivent prendre pour nourrir leur famille, ils sont obligés de l'injecter dans le transport. L'autre élément, c'est l'accompagnement des travailleurs. C'est vrai, on a dit que l'État recrute, mais il y a un élément qui manque, c'est la formation et l'accompagnement de ces travailleurs-là et l'acceptation de ces travailleurs-là par leurs collègues. Parce que les gens ne sont pas formés sur le handicap. Donc, ce qui fait que les gens ont tendance à croire que ce que l'État fait, c'est de l'aumône qu'on donne aux personnes handicapées. Non, c'est un droit. Donc, il faut rendre les postes accessibles aux personnes handicapées. Il faut que les responsables des entreprises soient formés sur la question du handicap.
Merci beaucoup. Madame Kona, on va vous donner le micro pour répondre à ces préoccupations, de savoir quelle est la politique nationale, qu'est-ce que fait l'État, le gouvernement, pour aider donc à insérer les personnes handicapées.
Merci bien, M. Ben Dakité. La question de l'emploi des personnes handicapées est une question qui est prise en compte par l'État de Côte d'Ivoire à travers déjà le plan national de développement. Et comme tout à l'heure M. Afré Kouassi l'a dit, les personnes handicapées sont recrutées à la fonction publique depuis 1997 et ces différents recrutements ont permis jusqu'à ce jour 2107 personnes handicapées qui ont regagné le rang des fonctionnaires. Et déjà pour 2024, le gouvernement vient d'accorder encore un autre recrutement de 200 personnes handicapées, ce qui porterait le chiffre à 2307 personnes handicapées fonctionnaires. C'est vrai, aujourd'hui nous avons des chiffres, mais nous savons aussi que l'État de Côte d'Ivoire, la fonction publique ne peut pas recruter les personnes handicapées. Nous savons donc que l'État se retourne vers le secteur privé qui est
pourvoyeur de beaucoup plus d'emplois. Et sur cette question, il y a eu des tests. Nous avons eu déjà la loi d'orientation de 1998. Il y a eu des décrets d'application de cette loi. Nous avons le nouveau Code du travail de 2015 qui, en son article 12.2, l'employeur est tenu d'employer un quota. Il y a un quota qui est réservé aux personnes handicapées qui ont détenu la qualification professionnelle requise. Et à suite de ce Code du travail, nous avons le décret relatif à l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé, le décret de 2018, où il y a des proportions qui sont établies jusqu'à de 1 à 100 travailleurs permanents. La structure privée doit avoir au moins une personne en situation de handicap dans l'effectif. Au-delà de 100 travailleurs permanents, c'est 2% de l'effectif qui doivent être en situation de handicap. Mais aujourd'hui, ces tests ne sont pas applicables parce que à côté de cela, il y avait eu d'autres tests qui ont été pris déjà. Nous avons les deux commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, secteur public, secteur privé. Et il y a eu aussi le décret concernant le fonds d'insertion des personnes en situation de handicap, pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Parce que c'est vrai, il y a eu des quotas qui sont donnés aux différentes entreprises, mais celles qui ne vont pas respecter ces quotas devront payer une contribution qui sera reversée au niveau de ce fonds. Donc, aujourd'hui, nous avons les deux cotorèbes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont commencé à se mettre en place tout le long de cette année 2023. Pour la cotorèbe secteur privé, nous avons le patronat qui est partie prenante. Nous avons les centrales syndicales qui sont parties prenantes. Nous avons également représentants des organisations de personnes handicapées concernant les deux cotorèbes. Et pour le secteur privé, nous avons déjà fait 3 sessions cette année. Donc l'année prochaine, il s'agira maintenant de vulgariser cette commission, de sensibiliser, de vulgariser pour que déjà dire à la population des personnes handicapées que le fonds a commencé ses activités. Je pense que ce sera dans le courant de l'année 2025. Le secteur public a démarré sa première session dans ce mois de décembre. Donc ça vous dit que les choses sont en train de se mettre en place pour que les personnes handicapées soient recrutées au niveau du secteur privé. Tout à l'heure, Monsieur Kwasi Afré, parlant de tout le monde obligatoire, c'est vrai que ce n'est pas encore formalisé. Donc, nous travaillons à ce que vraiment ce recrutement soit formalisé. Le projet de décret, il est déjà rédigé. Voilà. Donc, nous pensons que l'année 2025, nous pouvons transmettre aux autorités compétentes en la matière que vraiment ce recrutement soit formalisé. Comme il a dit, déjà, il y a eu le premier en 2015 où 300 personnes ont été recrutées. Après 2015, il y a eu 2018 avait 158, mais depuis 2019, c'est 200 personnes handicapées qui sont recrutées chaque année. Voilà, donc on va dire depuis 2015, ça a fait autour de 1500, 59 personnes qui ont été recrutées grâce à l'action du gouvernement. Donc c'est une action à saluer. Donc maintenant, nous allons tourner vers la formalisation de ce recrutement à travers un projet de décret qui est déjà rédigé, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, au niveau du secteur privé, comme j'ai cité tout à l'heure, il faut bien que les personnes handicapées qui sont détentrices diplômes de qualification puissent être amenées à travailler. Donc l'année prochaine, ces comités, ces cotorèbes-là pourront vraiment travailler et les personnes handicapées désireuses seront accompagnées par les cotorèbes. Celles qui, au sein de ces comités, nous avons des collèges de médecins qui vont déjà dire la compatibilité, reconnaître déjà la situation de handicap à ces personnes et montrer aussi la compatibilité. Voilà, parce qu'il s'agit de tenir un poste de travail. Et il faudra aussi accompagner les entreprises, bien évidemment, puisque c'est des personnes qui viennent, les entreprises sont déjà constituées, elles ont déjà leurs locaux, il faut les rendre accessibles. Donc le fonds dont on a parlé tout à l'heure permettra d'accompagner ces personnes à aménager le poste de travail, à aménager, les locaux et puis à acquérir du matériel pour permettre à ces personnes handicapées de pouvoir tenir ces postes de travail.
Madame Kona, je voulais que vous répondiez à la préoccupation qui avait été soulevée par Monsieur Alfred Kwasi concernant le fait que des personnes handicapées aient affectées régulièrement dans des services de la fonction publique et puis des agents de l'État disent non, ils ne peuvent pas prendre fonction. Sur ces questions, parce que ça revient très souvent, puisque nous sommes en contact aussi avec des associations de personnes handicapées, ces questions-là reviennent. Quelle est votre démarche pour pouvoir gérer ces situations?
Nous sommes bien conscients de cette réalité, parce que plusieurs fois, les personnes handicapées sont venus vers la direction de la commission des personnes handicapées pour poser le problème. Aujourd'hui, nous travaillons vraiment à sensibiliser les DRH. Voilà, c'est déjà une réponse. Et nous sommes en train de travailler pour un atelier qui va réunir les différents DRH de ces ministères-là pour pouvoir les sensibiliser, renforcer leurs capacités quant à l'accompagnement, voilà, de ces personnes. C'est une action de l'État, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a décidé de recruter ces personnes. Ces DRH sont tenus de les recevoir. Donc nous allons travailler à travers, comme je l'ai dit tantôt, cet atelier-là pour renforcer les capacités de ces directeurs des ressources humaines. À côté de cela, c'est vrai qu'on a parlé de personnes handicapées qui ont les arrêtés. Vous savez que la fonction publique gère la carrière, gère tous les fonctionnaires, voilà, de Côte d'Ivoire. Et je pourrais dire que c'est avec diligence qu'ils traitent quand même le dossier des personnes handicapées qui sont recrutées. Parce que même pour les personnes valides, elles peuvent faire 2 ans d'attente. Mais avec les personnes handicapées, je pense qu'il y a une accélération, une diligence qui est faite quant concernant le traitement de leur dossier. Donc, je vais demander aux personnes handicapées d'être indulgentes. Ça va se faire. Nous travaillons en collaboration avec les services de la fonction publique pour que cela puisse se faire. Et tout à l'heure, Monsieur Koné a parlé de la désignation des points focaux dans les différents ministères. Sur cette question, nous sommes également en train de travailler au niveau de la direction parce que je pense que ça, c'est aussi une recommandation de la Convention relative des droits des personnes handicapées. Il faut que, au niveau de chaque ministère, des points focaux soient désignés. Ce sera plus facile d'adresser ces questions. Et je pense que lorsque nous sommes en train de travailler, déjà les thèmes de référents, les courriers sont en train d'être faits pour que, voilà, ces points focaux, même concernant les différents programmes de santé du ministère de la Santé, des courriers ont aussi été adressés. Les réponses sont déjà en train de nous parvenir par rapport à la désignation de ces points focaux. Donc, je pense que pour 2025, il y a beaucoup de choses qui seront mises en place pour que nous puissions réagir sur cette question. Cette question sera la personne, voilà, ressource, le répondant concernant les différentes thématiques, concernant la problématique même du handicap. Et je voudrais aussi dire que cette année, pour le recrutement de 200 personnes, cette année, il y a une innovation. Cette année, l'inscription se fait en ligne pour réduire les déplacements concernant les personnes handicapées. Donc cette année, ils viendront juste pour la visite médicale et au cours de cette visite, ils pourront déposer leur dossier. Donc c'est une innovation qui s'est faite. C'est vrai qu'il y a quelques petits soucis, c'est un nouveau processus, voilà. Donc, je vais demander encore leur indulgence. Il y a des contacts qui ont été, voilà, mis à leur disposition. Chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils peuvent se référer au niveau de la direction à travers ces contacts pour que nous puissions les accompagner pour pouvoir faciliter cette inscription en ligne-là.
D'accord. Monsieur Emmanuel Tanu du ministère de la Santé, sur la question, en même temps, vous allez embrayer sur votre réponse, hein, en termes de santé pour les personnes handicapées, ce que le ministère fait.
Merci bien, Monsieur Diakité. À la suite de Madame Conan, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le gouvernement déploie beaucoup d'actions à l'endroit des personnes handicapées. Parce que nous sommes sans ignorer que dans la société, aucune famille ne peut se targuer de n'avoir aucune personne handicapée en son sein. Et donc, c'est une question qui touche tout le monde. Nous sommes venus en début d'émission sur le nombre et cela nous interpelle. Aujourd'hui, il y a plusieurs politiques, comme j'ai eu à le dire, qui se mettent en place pour pouvoir accompagner. Et dans ce sens-là, nous, au ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, nous sommes sur la question de l'équité en santé pour les personnes handicapées. Au cours de ce processus, nous avons déployé une formation des OPH, des organisations des personnes handicapées, en matière de plaidoyer. Une information avec l'ONG internationale SAI-Surveil, l'OMS, accompagnée du ministère de la Santé, pour que, de manière conjuguée, nous sachions comment porter l'information. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de politiques en place, mais deux fois, les ignorants, on n'en bénéficie pas. Donc, il faut que l'information parvienne à tout le monde. Aujourd'hui, il y a l'école de la deuxième chance. Pourquoi pas à l'endroit des personnes handicapées? Donc, il y a l'État qui fait l'effort pour mettre à travers le ministère en charge de la jeunesse, pour l'emploi jeune, pourquoi pas aussi à l'endroit des personnes handicapées. Et donc tout cela, c'est juste une question d'information. Il faut qu'on sensibilise, il faut qu'il y ait beaucoup de plaidoyer. Et je pense que la conjugaison des efforts des uns et des autres, non partie institutionnelle, mais aussi les organisations de la société civile, les OPH et tout, en combinant nos efforts, nous parviendrons à apporter un plus aux personnes handicapées. En ce qui concerne notre politique à l'endroit des personnes handicapées, c'est un véritable pont de ce que le ministère va offrir à la population. Parce que la prise en charge du handicap coûte cher. Et comme la prise en charge du handicap coûte cher, il faut des mécanismes pour ne pas ruiner les familles qui ont des personnes handicapées. La politique de la couverture maladie universelle qui est en marche aujourd'hui, la CMU marche véritablement. C'est donc à l'endroit des personnes handicapées de sensibiliser en leur sein. Je m'adresse aux OPH, de sensibiliser en leur sein pour que toutes ces personnes-là adhèrent, fassent leur carte et qu'on paye régulièrement les 1000 francs par personne par mois pour pouvoir bénéficier de la prise en charge au plan sanitaire. Parce que je peux vous dire qu'environ 80% de nos pathologies les plus usuelles sont prises en compte au niveau du panier de la couverture maladie universelle. Et pour ceux qui seraient en situation d'indigence, il y a aussi des mécanismes où la couverture maladie universelle à travers la RAM les prend entièrement en compte. Donc, tous ces éléments-là, je pense qu'il y a lieu de déployer ces efforts, de conjuguer nos différents efforts, parce que si nous, nous prenons les uns les autres la main et que nous travaillons dans la même vision, je pense qu'on pourra résoudre pas tous les problèmes, mais une bonne partie des problèmes.
Monsieur Alfred Kouassi, je vous permets de dire vraiment en quelques mots, parce que c'était une préoccupation, c'était que 2025 qu'on arrive à des élections, mais on n'a pas entendu les personnes handicapées dans ce processus électoral. Juste un mot sur la participation des personnes handicapées dans le processus politique, puisque ça fait partie aussi des revendications des personnes handicapées, c'est d'être là où on prend des décisions et c'est de participer à la vie de la nation.
Merci. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un grand projet pour lequel même j'étais ici à cette radio, le projet pour le renforcement de la participation politique et citoyenne des personnes handicapées dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire. Un projet financé par l'Union européenne et CBM à hauteur de 619 millions de francs CFA. Ce projet a couru de 2020 à 2023 et j'ai même été chef de ce projet. Et dans le cadre de ce projet, nous avons travaillé véritablement sur cette question dont vous parlez. À la fin du projet, nous avons même produit un guide qu'on appelait guide de mesures pratiques d'accessibilité, auquel on a joint un répertoire de spécialistes handicap, c'est-à-dire des personnes qui sont des interprètes en langue des signes ou des personnes qui savent comment est-ce qu'il faut mettre en place des rampes pour pouvoir permettre aux personnes handicapées de circuler. Et à la fin de ce projet, nous sommes aujourd'hui en train de travailler encore avec l'Union européenne, avec les autres partenaires de la CEI, même y compris avec la CEI également, sur qu'est-ce qu'on fait des résultats de notre projet. Parce que on a formé les partis politiques, on a formé les journalistes, on a formé les communautés. Monsieur Kone qui est avec nous ici, faisant partie du projet parce que sa zone était une zone du projet. Donc on a formé toutes les parties prenantes. On a formé même les institutions, on a travaillé à l'Assemblée nationale. On est sorti des Grand Bassam avec des recommandations qu'on appelait les recommandations des Grand Bassam qui portent sur des modifications à faire au niveau du code électoral et du mode opératoire des opérations électorales. C'est à la suite de cela que la CEI a pris en compte la question du handicap sur le formulaire de recensement électoral. Donc vous comprenez qu'il y a un grand travail qui est fait. Maintenant, c'est dans la mise en application. Donc 2025 est le test grandeur nature de tout ce que nous avons décidé, autant avec la CEI, les partis politiques, que les autres institutions de la République. Donc nous, nous serons observateurs sur cette question en 2025 et nous serons réellement partie prenante. C'est-à-dire les personnes handicapées vont prendre toute leur part dans le processus en tant que candidat pour ceux qui peuvent être candidats, en tant qu'électeur pour ceux qui peuvent être électeurs. Mais en tout cas, en 2025, croyez-nous, nous allons prendre toute notre part dans le processus électoral en Côte d'Ivoire.
Madame Niali, on va aller avec vous. C'est la fin de notre émission. Quel est le plaidoyer que vous faites au terme de cette émission d'aujourd'hui à l'endroit donc des gouvernants, bien entendu, mais de la société aussi sur son regard par rapport donc à la personne handicapée?
De prime abord, nous allons déjà saluer ce qui est déjà fait parce qu'on n'est pas dans le néant, on a déjà quelque chose en existant. À cet existant-là, on a quand même des plaidoyers à ajouter au niveau de l'accès à l'éducation inclusive. On a besoin de politiques qui garantissent vraiment l'accès à une éducation adaptée pour nos enfants. On a besoin de soutien psychologique. On demande vraiment la mise en œuvre de services de soutien psychologique parce que on en a besoin pour les enfants et pour les familles aussi. On a besoin de l'amélioration des infrastructures. Les infrastructures existent déjà. Donc on a juste besoin que ce soit amélioré pour permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir accès à ces infrastructures-là. On a besoin aussi de la mise en place de programmes de sensibilisation parce qu'on se rend compte que c'est à tous les niveaux, même au niveau des employeurs, des employés, des... Tout le monde a besoin d'être sensibilisé sur le handicap, a besoin de savoir que le handicap, c'est pas une malédiction. Je peux côtoyer un handicapé, je peux me familiariser avec lui, rien ne va m'arriver. On a vraiment besoin de sensibilisation là-dessus. On a besoin aussi de plaider pour une facilité de l'accès aux soins de santé. C'est difficile. Les spécialistes, le paramédical, c'est vraiment difficile. On a aussi besoin de soutien financier. On a besoin aussi qu'au niveau des activités physiques et culturelles, les personnes en situation de handicap aient accès à ça aussi. On a besoin aussi, au niveau de la formation professionnelle, on a besoin de ça. Comme vous parlez de l'école de la deuxième chance, on a besoin de ça, on a besoin de toutes ces ouvertures-là. On a besoin de la création de plusieurs réseaux de soutien. On a besoin que les enfants aussi participent à ce qui leur arrive. Il ne faut pas les mettre à l'écart. Ils ont des idées, ils vraiment c'est des anges, ils ont tellement de choses à apporter, il faut les mettre comme acteurs aussi, pour qu'on voie aussi ce qui se passe dans leur tête, parce que c'est eux qui sont marginalisés. Donc si on sait un peu ce qu'ils pensent, on peut créer quelque chose pour eux. Et comme on parlait aussi des points focaux, il faut qu'il y ait des points focaux. Il faut qu'on sache vers qui se diriger. Le parent, mon enfant, bon, on vient de me donner un diagnostic, vers qui je me tourne? Je ne vais pas me tourner vers une ONG tout le temps. Il faut que l'État mette en place des structures bien positionnées pour que le parent aille. Comme ça se passe sous d'autres cieux, tu vas, il y a un service pour. Selon le handicap de l'enfant, il va dans tel département. Là-bas, dans le département, on le redirige vers telle école. Là, il n'y a pas d'enfant qui est chassé ou de parent qui est chassé dans une école parce que c'est le département qui l'a emmené là-bas. Et ça, on a vraiment besoin de ça. C'est vraiment tous ces plaidoyers-là dont nous avons besoin.
Merci beaucoup à vous tous. C'est la fin de notre émission débat sur le thème droit des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Où en sommes-nous? Mes invités étaient Madame Kouna Kouadio Agathe Marie-Laure, sous-directrice des droits des personnes handicapées à la direction de la promotion des personnes handicapées au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Monsieur Emmanuel Tani, conseiller technique du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Monsieur Alfred de Kouassi, conseiller au Conseil national des droits de l'homme et membre du comité des experts des Nations Unies. Monsieur Kone Yakuba, président de la coordination des associations des personnes handicapées. Madame Marie-Paul Ngali Almelda, présidente de la fondation Dis-moi qui tu es, membre de l'association de l'Union nationale des parents des personnes handicapées. L'émission Démocratie en progrès était présentée par Ben Diakité et réalisée par Antoine Kouassi. À très bientôt pour d'autres rendez-vous sur Radio de la Paix.
Ce programme a été réalisé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats. Radio de la Paix.